Bonjour, je suis heureux d'être des vôtres à ce dimanche, cette occasion. C'est pour moi un bonheur, un plaisir de renouer avec des gens que j'aime et que je respecte, Steve, Samuel, toute l'équipe qui est de l'IBB. J'ai fait souffrir un certain nombre d'étudiants hier. Je sais pas si je vois quelques-uns, ils sont encore là, donc peut-être c'était pas trop grave. Mais c'est un bonheur d'être avec vous à l'occasion de ce culte. J'ai eu un moment aussi particulier puisque ma petite sœur, qui ne connaît pas la foi, qui m'a vu un peu dans ma propre démarche, elle était présente, elle habite Bruxelles, elle était présente ce matin. Alors c'est très touchant pour moi de partager ce culte, de vivre ces moments en famille. Voilà. Alors ce matin, j'aimerais qu'on parle de quelques fondamentaux. Et j'imagine que, quelle que soit votre profession, vous avez un certain nombre de fondamentaux qui sont propres à votre profession ou à votre activité. Alors, je ne vais pas faire la liste de toutes les activités humaines, mais dans mon adolescence, j'étais passionné d'aviation et mon père a eu la gentillesse de me donner ou me faire donner quelques cours de pilotage. Alors, j'aime à croire que maintenant, bien sûr, je pourrais piloter un 747, mais je n'ai pas de licence. Mais j'ai pris quelques cours et dans le BEABA de l'activité de pilote, on apprenait un certain nombre de slogans qui nous permettaient de ne pas oublier certaines choses fondamentales. Par exemple, dans la phase d'atterrissage, il fallait se souvenir de quelque chose comme « Fais ton métier pour vivre entier ». Alors, il fallait vérifier que le frein était verrouillé, il fallait vérifier que le train d'atterrissage était sorti. Ça ne se passe pas très bien quand un avion se pose sans train d'atterrissage sorti. Juste si vous avez peur des avions, voilà une nouvelle manière de réfléchir au prochain vol que vous ferez, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des slogans où il y a certains fondamentaux, il ne faut pas les louper. Et ma fille, qui est infirmière, me disait que dans les contextes des EHPAD, où on accompagne des personnes âgées, eh bien, il y a aussi un certain nombre de slogans qui résument ce qu'il faut vérifier et vivre de façon professionnelle. Par exemple, « Bref comme Dara ». Je ne sais pas si c'est un slogan que vous utilisez ici, mais je le découvre. Hein. Enfin, je l'ai appris pour l'occasion. Hein. Mais c'est « Bref pour boire et manger »,« R pour respirer »,« E pour éliminer »,« Vêtir ». Et c'est sûr que si on ne respire pas, on vit mal. Et donc, c'est des petits slogans qui nous permettent de réfléchir au BEABA de l'activité ou de la profession que nous vivons. Et ce matin, j'aimerais évoquer un certain nombre de fondamentaux qui sont liés à la vie chrétienne. Et je trouve que c'est utile parfois de revenir dessus parce que la vie est compliquée, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous vivez votre vie chrétienne, mais je trouve qu'elle est remplie de défis. Les relations conjugales sont parfois compliquées, les relations familiales sont parfois compliquées, celles de voisinage ou même de relations professionnelles sont compliquées. Et elles tendent à détourner notre attention de ces fondamentaux de l'évangile, ces fondamentaux de la vie chrétienne. Notre propre chemin est parfois chaotique. C'est en tout cas mon cas, je remarque que mon cœur est vite plongé. Vite orienté ou désireux de s'orienter loin du Seigneur. J'ai besoin de revenir aux fondamentaux. Et puis parfois le contexte dans lequel nous vivons est complexe. Parfois c'est un chômage, une maladie, parfois c'est un divorce que l'on subit, parfois ce sont des situations qui sont en dehors de notre contrôle et qui font que la vie est compliquée. Et voyez-vous, l'apôtre Paul écrit dans la lettre que nous allons aborder, l'apôtre Paul écrit à un jeune collègue qui est en poste sur l'île de Crète. Et c'est assez amusant parce que au milieu de cette lettre, qui est une lettre professionnelle en quelque sorte, sur le BEABA de la fonction pastorale, si vous voulez voir comment les anciens se comportent dans l'église, s'ils font du bon boulot ou pas, vous lisez les lettres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, ce sont les fondamentaux du ministère. Et au milieu de cette lettre, il y a cette section majestueuse sur l'évangile, sur l'essentiel de la vie chrétienne. Et on se dit, c'est un peu surprenant, n'est-ce pas, qu'à une lettre destinée à un pasteur, on ait des éléments de cette nature-là. C'est un peu, justement, les fondamentaux. C'est un peu comme si vous étiez directeur de course de Formule 1 et que vous disiez au pilote, n'oublie pas d'accélérer. C'est un peu évident, sinon vous seriez par là, quoi. Ou si vous étiez coach d'une équipe de foot, vous disiez à vos joueurs, n'oublie pas de marquer des buts. Enfin, alors c'est très curieux de voir au milieu de cette lettre pastorale ce texte qui est un résumé remarquable des fondamentaux de l'évangile et des fondamentaux du salut. Mais je vous suggère que si c'est là, c'est parce que notre cœur a tendance à les oublier, que l'on soit pasteur, que l'on soit disciple de Jésus depuis quelques années ou depuis de longues dates, et que l'on a besoin régulièrement de revenir à ces fondamentaux. Et donc, si vous me le permettez, nous allons lire dans la lettre, si vous me le permettez pas, je suis ennuyé, parce que c'est quand même ce que j'ai prévu, hein, mais nous allons lire dans la lettre de Paul à Tite, ces versets que nous avons déjà lus, mais sur lesquels nous allons revenir, et qui nous orientent sur quatre fondamentaux de l'évangile et de la vie chrétienne, sur lesquels nous sommes appelés à regarder, à maintenir notre regard. Lisons la parole de Dieu, verset 11 de chapitre 2. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde et vivre dans le siècle présent de manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Maintenant, quelques remarques que je livre à votre réflexion et que vous devez bien sûr valider avec le reste de l'Écriture. Mais quelques remarques qui nous orientent, ou qui orientent notre regard, en quelque sorte, dans ces quatre directions, ou ces quatre fondamentaux de la vie chrétienne et du salut. Et le premier point que je vais développer plus longuement, donc si vous vous inquiétez de la longueur du message, sachez que le premier point prend plus de place, mais le premier point, c'est celui de la grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et si c'est important de le souligner, c'est parce que les êtres humains sont confrontés à un vrai problème, n'est-ce pas? Quand Paul décrit l'être humain en Éphésiens chapitre 2, il le décrit comme un homme de colère qui marche selon ses désirs. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, c'est un jugement assez terrible en fait. Mais si on regarde en nous-mêmes et si on regarde l'actualité du monde, nous voyons combien les hommes vivent selon leurs désirs et leurs pulsions les plus naturelles et que c'est même une revendication. Et que la Bible en parle comme d'une perdition. Notre condition humaine, c'est une perdition, une mort spirituelle, une mort relationnelle, une mort éternelle. Et dans ce contexte un peu glauque, Dieu intervient et il intervient sur le mode de la grâce. Et souvent on parle du salut, moi je voudrais vous suggérer que c'est presque plus à regarder comme un sauvetage. La grâce de Dieu, source d'un sauvetage pour tous les hommes. Non pas que tous les hommes l'obtiennent immédiatement, il y a une réponse à cela. Mais qu'elle est issue de la volonté de Dieu de sauver des êtres humains qui sont perdus à ses yeux. Alors, l'apôtre Paul écrit donc à Tite qui se trouve sur l'île de Crète. Et la Bible nous dit peu de choses finalement sur les Crètes. Il n'y a pas que des choses très, très heureuses quand on lit comment ils sont décrits. Mais l'histoire nous rapporte que, selon Plutarque, Polybe et Strabon, les Crétois étaient considérés comme des menteurs et des ivrognes. C'est pas très sympathique. C'était il y a 2000 ans. Hein. Si vous venez de l'île de Crète, je ne porterai pas ce jugement sur vous maintenant. Hein. C'est faut lire dans son contexte historique, n'est-ce pas? Mais même, il y avait une sorte de sport national qui était celui de tromper les gens. C'est-à-dire qu'on était vraiment doué sur l'île de Crète quand on arrivait à tromper quelqu'un. À tel point que dans le bassin méditerranéen, on avait ce proverbe, ce slogan qui disait il est arrivé à créter un créteur, c'est-à-dire à tromper un trompeur. C'est vraiment des gens qui étaient experts dans l'art de tromper les gens. C'est assez terrible hein, comme marque de comme qualité. Hein, Et puis, il y avait un petit vin coquin sur l'île qui était très prisé, mais vous savez que quand il y a beaucoup de vin, il y a aussi beaucoup de violence, il y a aussi beaucoup d'abus, il y a aussi beaucoup de choses terribles en fait qui a lieu parce que l'alcool inhibe et les gens sont... En fait, il y a le cœur qui se révèle dans toute sa splendeur horrible en fait. Donc quand Paul écrit cela à Tite, il sait que Tite est confronté à des gens durs, des gens qui sont ancrés dans leur manière de vivre. Mais il y a une chose dont il faut se souvenir, c'est que la grâce de Dieu prend tous les hommes et toutes les femmes là où ils sont, quel que soit leur mérite antérieur, et leur permet à tous d'accéder à un Dieu de gloire et de pureté. Et je suppose que nous avons tous ce sentiment ou cette conscience de défaillance vis-à-vis de Dieu. Pour certains, c'est une culpabilité très vive. C'était le cas de Martin Luther qui passait des heures et des heures et des heures, même en tant que prêtre catholique, à confesser ses fautes tellement il était revêtu de ce sentiment d'indignité. Pour d'autres, et notamment si vous êtes adepte des réseaux sociaux, c'est plus trop la conscience intérieure de la culpabilité qui vous parle, mais un sentiment de honte. Parce que votre vie exposée n'est pas parfaite ou bien différente de celle des autres, semble-t-il. Il y a un sentiment de honte. Pour d'autres, c'est un sentiment de peur profonde vis-à-vis de la mort, vis-à-vis du lendemain, vis-à-vis de... Et ce sentiment nous montre que notre vie est brisée. Elle est brisée par rapport à la perfection à laquelle nous aspirons. Et là, la grâce de Dieu se manifeste. Le temps du verbe manifester évoque comme une sorte de surgissement. C'est un peu comme si vous partez en randonnée pour la nuit et que vous êtes là au milieu d'une montagne avec votre sac de couchage et vers 3-4 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes couvert d'humidité, vous commencez à grelotter de froid et vous attendez qu'une chose, c'est que... Oui, il n'y en a pas beaucoup alors qu'ils le font ici, hein, mais, ou qu'ils l'ont fait, hein, c'est que le soleil se lève. Parce que ça va soudainement réchauffer notre corps refroidi. C'est un peu ça la grâce de Dieu. Elle vient manifester quelque chose à nos vies pour orienter notre regard. C'est comme si vous faites une longue randonnée en raquette dans la neige et puis soudainement à l'arrivée vous avez un bon bol de chocolat chaud. Ou bien si vous êtes comme moi de grands sportifs, vous faites 50 mètres en courant et vous revenez et vous prenez un bon verre d'eau fraîche, hein, et c'est juste rafraîchissant. C'est ça la grâce de Dieu. Et il y a cette notion qui est fondamentale, c'est qu'on ne vient pas à Dieu sur une autre base que la grâce. On raconte l'histoire de C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, et qui discutait avec un certain nombre de ses pairs. Vous savez qu'il était professeur à l'université d'Oxford, et il discutait, ou il entendait une discussion que ses pairs avaient sur l'originalité du christianisme. Qu'est-ce qui est différent dans le christianisme ? Le christianisme et les autres religions. Et tous discutaient, ils n'arrivaient pas à trouver. Et justement, C.S. Lewis passait par là, il dit « Hey C.S., dis-nous, c'est quoi la différence fondamentale entre le christianisme et les autres religions ?» Parce que lui venait de découvrir la foi. Et il a dit « C'est très simple, la grâce. » Dans toutes les religions du monde, celles que je connais, informez-moi si j'en ai loupé, mais dans toutes les religions du monde, le principe opérant, c'est que moi je paye. Je paye par des rites, par des prières, parfois par la souffrance, c'est le cas du karma. Je vais payer pour racheter mes fautes et obtenir quelque chose de la divinité. Je vais offrir du riz à des idoles. Je vais faire des choses pour apaiser les esprits. Je vais faire et faire et faire pour que Dieu me regarde et m'accepte. C'est l'inverse de la grâce. La grâce de Dieu, c'est Dieu dit qu'il n'y a aucune œuvre que nous pouvons faire qui soit suffisamment plaisante pour Dieu pour nous accepter sur cette base. Comment ça marche? Ça nous est donné au verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. C'est extraordinaire. La grâce est possible. Le fait de venir à Dieu gratuitement est possible parce que quelqu'un a payé. Dieu a regardé la brisure humaine avec tout ce qu'elle est, avec tout l'égoïsme qu'elle engendre, avec toute la violence qu'elle engendre, et il est venu en Jésus-Christ. Dieu le Fils s'est incarné. Et il a vécu la vie parfaite que nous n'arrivons pas à vivre. Il est mort sur la croix pour vivre la mort que nous devrions vivre, mais que nous ne vivrons jamais si notre foi est en lui, ou s'il nous a fait prendre conscience de notre besoin de lui. Et il est ressuscité pour nous faire passer par une résurrection que nous ne méritons pas, mais que nous vivrons. C'est extraordinaire. La colère de Dieu que nous méritions est tombée sur lui pour que nous n'expérimentions plus jamais sa colère. Donc, nous pouvons venir à lui sur le fondement de sa grâce. Et je trouve ça formidable, parce que ça veut dire que le gamin qui a grandi dans les ghettos de je ne sais pas quelle grande ville d'Amérique du Sud et qui a appris à voler pour vivre, il a le même accès à Dieu que le BCBG des banlieues chics de Bruxelles. Parce que c'est par la grâce que nous venons à Dieu les mains vides. Jésus a dit cela, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors la grâce de Dieu, elle est source d'un sauvetage qui est absolu et complet. Mais ce n'est pas simplement une porte d'entrée, c'est aussi fondamentalement une manière de vivre. Et je crois que de certaines manières, on vit non plus sous la grâce, mais on vit selon une série de règles quand on est devenu chrétien. Je vous explique comment ça marche. intuitivement, un matin, on se lève. On a un bon culte personnel. On sent dans la parole de Dieu, on découvre dans la parole de Dieu des trésors, on se réjouit. Tout le monde se lève pour le petit déjeuner de bonne humeur, avec un grand sourire. La vie est belle, on part à l'école à la bonne heure, on part au travail, tout va bien. Le patron vous voit en disant « Bien, le travail réalisé hier, super !» Et on se dit « Mais Dieu et moi, on est jumeaux !» C'est normal que Dieu m'ait sauvé, c'est comme ça. Et le lendemain, le réveil ne fonctionne pas, les enfants se lèvent, ils n'arrivent pas à trouver la bonne chaussure, tout le monde se crie dessus, on arrive en retard au boulot, tout le monde, personne ne vous dit le moindre salutation et vous dites « Mais Dieu m'a abandonné !» Vous réfléchissez au péché que vous pouvez avoir commis qui engendre une telle malédiction. Et fonctionnellement, on ne vit pas par la grâce. Mais nous sommes pleinement accueillis à cause de Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ seulement. Ce n'est pas seulement une manière d'entrer en communion à Dieu, c'est aussi une manière de vivre. C'est un des fondamentaux. Deuxième point. Deuxième axe sur lequel garder notre regard sont les progrès. Parce que la grâce de Dieu n'est pas statique dans une vie. L'une des objections que j'entends parfois quand je parle de l'évangile avec des amis qui ne connaissent pas Christ, c'est « c'est super facile. La grâce de Dieu c'est gratuit, donc tu l'acceptes, tranquille alors. » Mais c'est qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs je leur dis « si c'est si facile, je te propose de t'agenouiller, de confesser que tu es pécheur et de dire que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés. » Et donc, vraiment, tu veux lui donner ta vie? Non. Ah bon, donc c'est pas facile, parce que tu vas perdre ton indépendance. Et c'est pour ça, Jean, chapitre 3, versets 19 à 21, les gens ne veulent pas de la lumière, non pas parce qu'ils manquent de preuves, mais parce que leur cœur est mauvais et qu'ils ne veulent pas être exposés par la lumière. Mais bref, l'autre argument, c'est de dire, mais de réaliser que la grâce de Dieu, lorsqu'elle nous saisit, elle nous enseigne. Et c'est le mot qui est utilisé ici. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est vraiment un enseignement qui est pédagogique, comme un père qui prend un enfant par la main. Ça vous rappelle quelque chose? Selon les générations. Yves Duteuil, oui? Non? Oui? Il y a certains âges qui disent oui, d'autres qui disent non. Ça, on comprend. Alors, pour vous qui êtes d'une autre tranche d'âge, peut-être faudrait mieux écouter Papa Outeuil de Stromae. Ah, ça s'appelle plus, ça dépend des âges. Ou bien 100% de Johnny Hallyday. Il y a toujours ce... Ça ne veut pas dire que j'apprécie tout ce qui est dit dans ces chants. Mais on a ce sentiment que le Père, il est là pour nous enseigner, n'est-ce pas? Il y a la grâce de Dieu, elle n'est pas statique dans une vie. Elle n'est pas là simplement pour nous faire de nous des gens sauvés, mais pour nous apprendre quelque chose. Dieu devient un père pédagogique qui nous enseigne. Et la manière dont elle nous enseigne, c'est pas simplement une connaissance, c'est qu'elle nous enseigne dans deux directions. Et que nous ayons une semaine de vie chrétienne, ou que nous ayons 50 ans de vie chrétienne, c'est encore ces deux directions qu'il faut garder, et garder en tête, et se laisser travailler par le Seigneur. C'est que la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à quelque chose, et à vivre pour quelque chose. C'est pour ça que la grâce de Dieu ne peut pas être statique. Si nous ne portons pas de fruits de vie avec Jésus, on est en bon droit de comprendre que Jésus n'est pas présent substantiellement. Réellement. Souvenez-vous de la parabole du semeur, où cette parabole du semeur, la personne qui reçoit la semence porte du fruit. Celle-ci est vraiment liée à Dieu. Ceux qui disent Jésus, Jésus, une seconde, et puis le lendemain, parce que c'est compliqué la vie chrétienne, ou parce que les tentations sont trop fortes, abandonnent Jésus, c'est pas qu'ils perdent leur salut, c'est qu'ils ne l'ont jamais connu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à une certaine manière de vivre, et à prendre un autre chemin. Colossiens 3:5 nous dit « Faites donc mourir votre nature terrestre ». Et littéralement, je crois, c'est étouffer votre nature terrestre. C'est pas très agréable comme chemin, n'est-ce pas? Vous voulez devenir chrétien? Et c'est très bien, par la grâce. Et associé à ça, vous mourrez. Mais vous mourrez pour vivre. J'ai jamais vu ce que Christ me demandait comme étant moins bien que ce que le monde proposait, ou ce que ma chair proposait. Et si vous êtes un disciple de Christ et que vous avez goûté au péché, et là c'est trois fois, et là c'est parfois mon cas, je vois combien dans mes tripes je suis torturé par le Saint-Esprit qui nous ramène à une vie pieuse. Le péché n'est jamais bon, le diable propose bien plus qu'il ne livre, et nous sommes invités perpétuellement à mourir à nous-mêmes et à vivre pour quelque chose qui est tellement plus grand et tellement meilleur. La grâce de Dieu, elle s'accompagne d'un changement de vie. Et c'est un bon changement de vie. Mon fils est policier dans Californie et membre d'unité SWAT. Ne m'embêtez pas, je l'appelle. Et il est dans l'église responsable de la sécurité, parce qu'aux États-Unis, apparemment, il y a des problèmes dans les églises, il y a des dangers de se réunir dans une église. Il est chef de la sécurité de son église, dans lequel s'est converti Kanye West. Oui, certains connaissent, oui. Waouh! Et le frère, il est touchant. Bon, c'est un jeune chrétien, il est maladroit comme tous les jeunes chrétiens, mais c'est touchant parce qu'il dit la chose, il le dit publiquement, il dit « À partir de l'âge de 5 ans, il y avait sur la table de la cuisine des magazines porno, et je peux vous dire que ces magazines porno ont dirigé toutes les décisions de toute ma vie jusqu'à ce que je rencontre Christ. » Christ a changé, vous croyez qu'il regrette les magazines porno? Bah, il a changé pour quelque chose de tellement meilleur, n'est-ce pas? Même si les luttes peuvent perdurer par rapport à la lutte contre le péché, et que c'est tous les jours que l'on met à mort des pulsions pour vivre pour des pulsions meilleures que l'on doit aussi, sur lesquelles on doit aussi compter, pour lesquelles on doit aussi compter sur la grâce et la puissance et la sagesse de Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette notion de passer d'une chose à l'autre. Je renonce pour vivre. Et très souvent, par rapport au péché, on se concentre tellement sur le péché qu'il devient omniprésent dans nos pensées. Ça ne marche pas de dire non au péché. Ça ne marche que si on dit non au péché pour quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est vivre avec Jésus. C'est vivre selon l'axe d'aimer Dieu de tout son cœur, de trouver en Christ un plaisir supérieur, même si ce n'est pas toujours probant et ce n'est pas aussi sensuel que les plaisirs du monde, mais qui est néanmoins très, très réel. Troisième axe, le temps passe trop vite. Mais je vous propose un troisième axe qui nous est laissé ici avec l'avenir. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Et je suis conscient que cette section est un peu space pour nous. Imaginez, un jour, le matin, vous allez partir de chez vous, après vous être brossé les dents, et jamais plus vous ne retrouverez votre brosse à dents. C'est manifestement pas le plus grand perte que vous vivrez de ce moment-là, n'est-ce pas? Ni notre plus grande crainte, j'imagine. Mais il y a un moment où Christ va interrompre notre présent à jamais. Et vous savez quand est-ce qu'il reviendra? J'ai la date. Il reviendra bientôt. Et donc chaque jour, nous devons avoir cette espérance en nous parce que l'apôtre Jean nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur ». Un jour, cette gloire du Christ, dont nous n'avons à peine la capacité d'en cerner les contours, sera devant nous. Christ va nous prendre avec lui, nous le verrons tel qu'il est et nous serons transformés à son image. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, tellement ça m'effraie parfois. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'avoir devant moi ce moment-là où Christ va revenir. Parce qu'il va faire deux choses dans son retour. La première, c'est qu'il va juger de façon définitive et éternelle, le péché. C'est un peu effrayant et c'est un peu gênant cette notion, surtout actuellement. Il y a un théologien croate du nom de Miroslav Volf qui était un peu gêné par cette notion d'un dieu de jugement, comme c'est un peu le cas de la plupart d'entre nous spontanément. C'était certainement mon cas avant que je découvre la foi. Il écrit « Je pensais que la colère était indigne de Dieu ». Dieu n'est-il pas amour? L'amour divin ne devrait-il pas être au-delà de la colère? Dieu est amour. Dieu aime chaque personne et chaque créature, et c'est exactement pour ça que Dieu est en colère contre certains d'entre eux. Et il rapporte toutes les exactions infâmes que ce territoire a connues. Et moi qui voyage très souvent en Afrique et en Afrique centrale, je vois des hommes et des femmes qui ont connu des violences que je ne saurais pas répéter tellement elles m'effraient. Mais vous savez quoi? Christ reviendra. Dieu jugera. Non seulement Dieu jugera, mais Romains 8, 18 nous dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui sera révélée. En sorte qu'il y a des choses de cette terre et de cette vie pour lesquelles je dois mener un deuil. J'ai peut-être pas l'intelligence que je voudrais avoir, peut-être pas la carrière que je voudrais avoir, peut-être pas le mariage que je voudrais avoir, peut-être pas. Et il y a plein de choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait désirer, n'est-ce pas? L'herbe est aussi toujours plus verte chez notre prochain, surtout sur son compte Instagram. Mais la réalité, bien-aimés, c'est qu'il y a quelque chose de tellement plus glorieux qui nous attend, qui va nous faire dépasser toutes les souffrances actuelles. La Bible nous présente le retour du Christ avec un geste qui est surprenant. C'est en Apocalypse chapitre 21, lorsque Christ, dont il est dit que Christ essuiera toute larme. C'est probablement le geste le plus tendre qu'un mari peut faire à son épouse ou qu'un père ou une mère peut faire à ses enfants qui pleurent d'essuyer une larme, n'est-ce pas? Que Dieu, le Créateur de l'univers, vienne éponger nos larmes. Peut-être les larmes qui viendront de jugements de l'enfer que nous aurons vus, dont nous aurons été témoins. Peut-être les larmes qui viendront de tout ce que nous n'avons pas vécu. Peut-être de toutes les souffrances que nous avons dû endurer. Peut-être de tous les, aussi les deuils que nous devrons vivre de nos propres péchés, parce que quand on regarde nos vies, elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Je ne sais pas. Mais il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui sera révélée. Et nous pouvons être certains de cela parce que c'est garanti par la personne même de Christ dont il est dit qu'il est notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors c'est l'un des textes assez importants du Nouveau Testament qui évoque la divinité de Jésus. Lorsque les témoins de Jéhovah frappent à votre porte, souvenez-vous de Colossiens chapitre 2 parce que c'est l'un des textes qu'il évoque. Ce n'est pas le seul et ce n'est pas peut-être le plus probant, mais il y en a beaucoup, tellement d'ailleurs, qui en parlent. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grammairien qui s'est sharp, qui s'est intéressé à l'utilisation des mots « et » dans le Nouveau Testament, « kai ». Il faut vraiment être grammairien pour s'intéresser à ça. Il les a regardés tous, il les a répertoriés tous. Il a remarqué que lorsque deux descriptifs sont, au singulier sont unis par un kai copulatif, ça, il n'y a que des grammairiens aussi qui peuvent le formuler ainsi, eh bien, ils sont descriptifs de la même personne. C'est vraiment notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et il signe vraiment en tant que Dieu cette promesse qu'il reviendra. Pour en être certain, le monde peut se moquer en disant « ton retour de Christ, c'est rigolo ». Mais le jour viendra où, avec beaucoup de surprises, il interrompra notre vie et nous placera en sa présence. Allez, dernier point qui nous est donné par le verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de toute iniquité, vraiment. Nous sommes couverts, j'ai parlé de honte, il nous a donné son honneur, n'est-ce pas? J'ai parlé de culpabilité, il nous a donné sa justification, n'est-ce pas? J'ai parlé de peur, eh bien il nous a donné maintenant cette assurance d'être protégés en Christ. Nul ni personne ne peut l'arracher de sa main, peut nous arracher, pardon, de sa main à lui. Et donc, le but de cela, c'est de se faire par lui, de se créer pour lui un peuple zélé pour des œuvres bonnes. Et l'image que je voudrais vous laisser, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas parfaite, aucune des images ne convient pleinement, c'est l'image d'un Dieu qui fait des courses. Il va au champ, hein, il vous place chacun dans son caddie, hein, je ne sais pas, moi, Samuel, James, et puis voilà, il met dans son caddie comme ça, et puis il arrive à la caisse, et la caisse, l'addition, elle est lourde, hein. En fait, c'est infini. Le prix de chaque être humain est infini. Et Dieu dit, j'ai un plan, je vais le payer moi-même. Et Christ vraiment vient pour payer pour cette humanité déchue, pour payer pour tous ceux et toutes celles qui auraient confiance dans son sacrifice. Donc, on est dans son caddie, Dieu a fait des courses, mais devinez quoi? Maintenant, on lui appartient. Hein. C'est ça la conclusion. C'est que parce qu'il nous a sauvés, il nous a sauvés pour que nous soyons à lui. Et maintenant, l'intention qu'il a pour nous, c'est que nous soyons à son service. Nous sommes prêtres, rois et prophètes en Christ pour que dans la société, les gens puissent apercevoir un peu Jésus. Que ce soit collectivement en tant qu'Église, dans votre témoignage public, que ce soit individuellement dans la manière dont vous vivez votre vie chrétienne publiquement, pour que des gens puissent voir que Christ mérite la gloire d'une vie, mérite l'engagement d'une vie. On raconte l'histoire d'Abraham Lincoln qui allait, dans cette période absolument terrible de l'histoire américaine, acheter un esclave. Et donc il arrive sur le marché aux esclaves et là il y a une femme magnifique qui est mise en vente et il enchérit sur un prix, d'autres enchérissent et lui continue d'enchérir et finalement c'est lui qui emporte la prise et il part avec cette femme. Cette femme, le visage fermé, bien entendu, s'attend à tous les sévices qu'elle va encore subir. Et Abraham Lincoln lui dit, « Madame, vous êtes libre de partir. » Et cette femme, libre, Je suis libre de faire ce que je veux, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je suis libre de faire le travail que je veux, vous êtes libre de faire le travail que je veux. Je suis libre d'habiter où je veux, vous êtes libre d'habiter où vous voulez. Et cette femme en larmes a dit, mais alors je veux rester avec vous. Parce qu'un maître qui est bon, on ne peut que rester avec lui. Christ est ce maître-là. Et il nous engage à son service. Alors, je suis conscient que ce béaba est l'affaire d'une vie, n'est-ce pas ? Ces fondamentaux de la vie chrétienne, tels qu'ils nous sont, il y aurait d'autres peut-être fondamentaux à donner, mais ces fondamentaux qui sont dans cette épître de Paul sont pas évidents. Mais je termine avec cette image. J'ai eu la joie de passer mon permis de moto il y a quelques années, et on m'a dit que la moto suivait toujours le regard. Et on me disait que si jamais tu vois un obstacle sur ton chemin, surtout ne regarde pas l'obstacle parce que tu vas le percuter. Regarde ailleurs et la moto suivra. Et malheureusement, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique cet exercice lorsqu'à la détour d'un virage, j'ai vu une grosse plaque de boue. Et immédiatement, je me suis dit, ne regarde pas la plaque de boue, ne regarde pas la plaque de boue, et je ne faisais que regarder la plaque de boue. Elle est venue sur moi, c'est pas moi qui suis venu sur elle. Et je suis tombé immédiatement, et fort heureusement, à pas grande vitesse. Mais c'est un peu comme quand on fait du bateau, il faut regarder loin pour garder le cap, parce que les vagues, elles nous balayent à droite et à gauche. Mais bien aimé, je vous encourage et j'espère que ce message vous aide à garder ses yeux sur ces quatre fondamentaux parce que votre vie va suivre votre regard. Et voilà les quatre éléments que je voulais vous laisser. De rester sur la grâce de Dieu, de rester dans cet axe de progrès perpétuel. J'ai des amis à 20 ans, ils avaient un petit problème de colère. Et vous savez quoi ? À 50 ans, ils étaient divorcés et pleins de colère envers tout le monde. Et leurs enfants avaient peur d'eux. Et eux-mêmes développaient les mêmes aspects. Les problèmes que l'on refuse de voir en face, nous poursuivrons. Nous sommes engagés dans un chemin de grâce, de progrès, d'avenir et de service. On prie. Dieu et Père, je te remercie pour la bienveillance que tu as manifestée envers les êtres humains, parce que c'est inconcevable que nous inventions un plan aussi remarquable, aussi généreux. Où pouvons-nous aller, Seigneur ? Tu as vraiment les paroles de la vie et de la vie éternelle. Dieu Père, je prie que tu prennes ce message, tu sais, ce dont on a besoin les uns et les autres, soit d'encouragement, d'exhortation ou de découverte, et je prie que dans ta bienveillance, tu te révèles comme toi seul peux le faire, à chaque âme, à chaque individu, comme tu l'entends. Permets que ta parole porte du fruit en nous. Nous déclarons, Seigneur, combien nous sommes pécheurs et combien nous avons besoin de grâce et que ton esprit intercède pour nous, comme la Bible le promet, pour nous donner cette force qui nous permet de vivre selon toi. Bénis cette assemblée, ses responsables, garde-les. Garde chacun d'entre nous pour les œuvres que tu as préparées d'avance cette semaine. En Christ et pour ta gloire. Amen.